Bonsoir à tous. Près de 10 chefs d'État d'Afrique centrale ce vendredi à Nairobi au Kenya. Le nouveau président congolais Joseph Kabila est déjà sur place. Tous ces chefs d'État doivent signer un pacte de stabilité pour la région des Grands Lacs. C'est le résultat de 4 ans de négociations entre les pays de la région. La région des Grands Lacs qui, comme vous le savez, a connu des conflits sanglants depuis 1993. Des conflits civils allant jusqu'au génocide, des rébellions internes et des guerres entre États. On a même parlé de la première guerre mondiale africaine à propos de la guerre en RDC de 1998 à 2003. Des millions de personnes sont mortes à cause de ces conflits armés. Encore davantage sont déplacées ou réfugiées. Des femmes ont été violées, des enfants ont perdu leurs parents et leur avenir. Et aujourd'hui encore, des dizaines de millions de personnes continuent à souffrir des conséquences de ces conflits. Conflits qui sont toujours actifs dans plusieurs pays. De nombreux groupes armés continuent à faire souffrir les populations en RDC et dans les pays voisins. Est-ce que quelque chose a été fait pour résoudre ces problèmes? La réponse est oui. Par exemple, plusieurs pays de la région ont organisé des élections ces 3 dernières années. Les scrutins les plus récents et aussi les plus marquants et les plus porteurs d'espoir. Il s'agit bien sûr des élections ici en RDC. D'autres initiatives vers la paix concernent l'ensemble des pays des Grands Lacs. C'est le cas de ce pacte de stabilité qui doit être signé ce vendredi et dont nous parlons aujourd'hui. L'accord attendu doit garantir le progrès et la sécurité durable en Afrique centrale. Alors, que contient cet accord qui doit être signé? Quelles solutions peuvent attendre les populations des pays concernés, en particulier celle de la RDC? Vous êtes aujourd'hui encore très nombreux à nous envoyer des messages. Jean-Paul Aguemena demande si cette nouvelle entente entre les pays des Grands Lacs saura neutraliser les appétits guerriers. Gabo Bahati Urbain à Bukavu dans le sud Kivu pense que les chefs d'État de l'Afrique centrale auraient pu éviter les conflits en signant cet accord bien avant. Et Doudou Bopoli à Beni au nord Kivu souhaite que cette réunion de Nairobi traite également des problèmes interfrontaliers, sécuritaires et économiques des pays des Grands Lacs. Pour répondre à vos questions et analyser vos opinions, dans ces studios, M. Henri Movasakani, porte-parole du gouvernement congolais, le professeur Labana Lassa Yabar, professeur des relations internationales à l'université de Kinshasa. Nous aurons aussi en ligne depuis Bukavu Agnès Kamwanya, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
C'est ce jeudi que s'est ouvert à Nairobi, au Kenya, le deuxième sommet de la Conférence internationale des pays de Grands Lacs. Et c'est ce vendredi que sera signé entre les chefs d'État de cette région un pacte de paix, de stabilité, de développement. Ce pacte est un pacte de non-agression dans lequel ces pays s'engagent à ne pas mener des actions de déstabilisation les uns contre les autres. Paul Kaboba est l'envoyé spécial de Radio Okapi à Nairobi. Suivez son entretien avec notre confrère Claude Kianza.
Bonsoir Paul Kaboba.
Bonsoir Claude Kianza.
Vous êtes l'envoyé spécial de Radio Okapi au deuxième sommet de la Conférence internationale des pays de Grands Lacs. Et à l'issue de ce sommet sera signé un pacte de sécurité, de stabilité et de développement. Peut-on déjà connaître, Paul Kaboba, le contenu de ce pacte?
Le pacte même s'appelle le pacte de paix, de stabilité et de développement. Alors, cet acte, en clair, veut dire que les pays de la région s'engagent à ne plus se faire guerre. Et en d'autres termes, c'est un pacte de non-agression. Il y a aussi le volet stabilité, cela veut dire que les pays s'engagent d'abord dans leur propre pays à remettre la paix, à éviter qu'il y ait des bandes armées qui opèrent dans leur propre territoire, que ces bandes armées n'aillent pas déstabiliser chez les voisins. Donc on voudrait que cette zone soit tout à fait stable dans les jours à venir. Le troisième aspect, qui est le développement, ils appellent ça le développement économique et intégration régionale. Il faudrait que tous les pays du champ, qui sont 11, il y a le Congo, il y a l'Angola, il y a la République centrafricaine, il y a la Zambie, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a la République centrafricaine, tous ces pays doivent se connecter de façon à ce que leurs économies puissent fonctionner ensemble. Et ainsi, les peuples qui auront un intérêt dans ce qui se fait pourront renoncer à des actions violentes, à des actions non conformes au mode de vie actuel.
Et quels sont les moyens d'application de ce pacte? En d'autres termes, quels sont les moyens prévus par ce sommet de chef d'État pour que ce pacte ne reste pas dans les tiroirs, mais soit réellement appliqué par ces pays?
Voilà, c'est ça la grande question, Claude Kaza. Et comme vous le devinez, pour que ce pacte puisse être effectif, il y a plusieurs volets qui doivent intervenir avant cela. Vous savez qu'il y a énormément de déplacés, énormément de réfugiés dans les Grands Lacs. Vous savez qu'il y a beaucoup de zones qui sont minées. Il y a également beaucoup d'armes légères qui circulent. Et ça, il y a déjà cet engagement de ce rappel de la groupe des amis qui s'engage en quelque sorte à financer ces opérations de déminage, de réinsertion des populations et d'élimination des armes légères.
Il y a aussi certains faits qu'il faudrait relever, notamment l'absence de certains chefs d'État. Paul Kaboba, vous êtes sur place à Nairobi. Pouvez-vous nous dire qui sont les chefs d'État qui sont là et qui sont ceux qui ne sont pas là et par quoi expliquer leur absence?
Oui, Claude Kaza, je préfère qu'on parle des absents parce que les présents, les autres pays du champ sont là et les autres pays côtiers sont là. Parmi les absences, on note d'abord l'absence de Paul Kagame, président du Rwanda, qui est, comme vous le savez, le Rwanda est l'un des pays du centre, donc l'un des pays clés dans le présent processus. Mais selon son ministre des Affaires étrangères, cela est dû à un problème de calendrier. Il aurait bien voulu être là.
Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers ce deuxième sommet, la diplomatie congolaise a bien joué son rôle?
L'impression, peut-être que sur le plan visible, la première impression c'est que la diplomatie congolaise n'aura pas vraiment brillé. Vous savez qu'il y avait en compétition des postes et même des symboles clés à pouvoir arracher. C'est d'abord le siège du secrétariat de la conférence des chefs d'État. C'est un siège à construire et qui appelle l'érection d'autres infrastructures qui devraient l'accompagner. Et c'est le Burundi qui a arraché le siège. On a même vu dans la délégation congolaise une véritable désolation. Au-delà de cela, il y avait un poste à décrocher. C'est celui du secrétaire exécutif. Et les pays étaient en compétition, il y avait beaucoup. Et finalement, au bout d'une journée, on s'est rendu compte que la République démocratique du Congo était également en jeu. C'est finalement la Tanzanie qui a arraché le poste.
Et quelle est l'image que la République démocratique du Congo projette aujourd'hui à l'extérieur, après les élections présidentielles, législatives et provinciales qui s'y sont déroulées?
Claude Kaza, je vous dirais que la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, auront été les grandes vedettes à Nairobi. Tout le monde est d'accord, en passant par Louis Michel de l'Union Européenne, par Alpha Omar Konaré, tout ça dans le discours très introduit de Yoweri Kaguta Museveni. Le Congo était présent dans tous les discours. Le Congo a suscité l'admiration par la réussite de ces élections, tout en insistant sur le fait qu'il faut que les pays de la Terre, que la communauté internationale puisse dans tous les cas aider ce pays.
Merci beaucoup Paul Kaboba et bonne soirée à Nairobi.
Merci beaucoup Claude Kaza et je dis aussi bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, nous retournons dans ces studios. Monsieur le ministre, merci d'être venu. On vient de l'entendre, la RDC a été le pays vedette à ce sommet. Plusieurs discours ont fait allusion au processus électoral finissant. Est-ce que c'est la réussite de ce processus congolais qui a déclenché ces sursauts pour la signature du pacte qui aurait dû être signé bien avant?
Non, je crois qu'il y a tout un processus qui était conçu il y a quelques années et le sommet était prévu pour cette période. C'est vrai que la donne congolaise avait beaucoup joué pour que le calendrier puisse bouger jusqu'en novembre, parce que tant que nous étions en processus, nous sommes le pays du noyau, hein, pour tous les pays du champ. D'ailleurs, paradoxalement, ce que dit justement votre reporter sur place, le Congo. Ce n'est pas la désolation qu'on ait marqué le siège et le poste de secrétaire exécutif. Au contraire, ça, aujourd'hui on peut le dire, cette conférence est une initiative congolaise. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, il y a lieu de le rappeler, c'est la diplomatie congolaise aujourd'hui qui voit ses efforts couronnés de succès. Rappelez-vous que c'est déjà Laurent Désiré Kabila qui conçoit une conférence de paix.
Est-ce que le succès n'aurait pas été très grand en arrachant aussi le siège, par exemple, du secrétariat de la conférence?
Vous constaterez par exemple que le pays important de l'Union européenne, je fais un exemple, comparaison n'est pas raison, mais vous verrez mon analyse, l'Union européenne, l'Allemagne et la France n'ont jamais réclamé le siège. Il faut d'ailleurs négocier un pays tampon pour que ceux qui sont les plus impliqués n'aient pas à tirer la couverture de son côté. Il ne faut pas en faire une question congolaise. L'essentiel, c'est la compréhension que la paix est un phénomène global et implique beaucoup plus de pays. Dans le temps, on parlait que de pays de Grand Lac. Ce nous, Congolais, à l'époque j'étais aux affaires étrangères, nous avons négocié plutôt l'Afrique médiane, de l'Atlantique à l'océan Indien. C'était notre conception qu'on prenait Brazzaville, qui avait aussi subi le soubresaut de guerre qu'il y a eu dans le Grand Lac.
La Zambie et l'Angola.
La Zambie jusqu'au Kenya. Ça, c'est une initiative congolaise. Deuxièmement, pour le poste de secrétaire général, vous savez, toute la domination des États-Unis, par exemple, à l'ONU, mais jamais vous n'avez eu un secrétaire général de l'ONU qui soit de nationalité américaine. Donc, pour être important dans une organisation internationale, il ne faut pas nécessairement arracher de postes ou avoir un accord de siège avec l'organisation internationale. Parfois, ça vous joue des tours. Nous avons été, nous hébergeons un certain nombre d'organisations ici. Parfois, nous jouons un rôle de figurant. L'essentiel, c'est que la paix, une fois obtenue pour nous, c'est la voie balisée pour le développement. C'est l'aboutissement d'un effort
congolais.
Dans
ce studio, également le professeur Labana. Professeur, vous avez entendu le ministre. Il y a ces succès que récolte la RDC à ce sommet, mais pas de siège pour la RDC. Qu'est-ce que vous dites?
Ok. À ce qui concerne le succès au niveau des élections, je trouve que c'est normal parce que toute la communauté internationale attendait l'issue le processus électoral dans notre pays. Mmh. Et comme c'était bien terminé, et c'est la première sortie du président de la République élu, n'est-ce pas, dans de tels forums, il est intéressant que tous les participants étaient intéressés à les voir, à les féliciter, et il y a d'autres qui l'ont fait par voie diplomatique, ce n'est que normal. Dans ce qui concerne le siège et le secrétariat exécutif, il faut d'abord reconnaître ici que l'attribution d'un siège ou d'un poste sur le plan diplomatique dépend aussi des tractations internes qu'on fait entre les participants, entre les protagonistes qui sont là-bas. Je crois que je suis d'accord avec le ministre quand il dit que pour nous, l'importance d'abord, c'était qu'on arrive autour de cette table pour voir comment nous pouvons stabiliser cette région sur le plan de la paix et sur le plan du développement. Et je crois la République démocratique du Congo pourra jouer un rôle important, n'est-ce pas, dans le cadre de développement ou dans la mise en œuvre de cet accord qu'on va signer demain. Et en plus, il faut savoir, dans le secrétariat exécutif là-bas, il y aura des fonctionnaires qui viendront de plusieurs États. Mmh. Ce n'est pas dit que dans ce siège, il y aura que les fonctionnaires qui viendront de Burundi. Mais nous allons trouver aussi les Congolais qui vont travailler là-dedans, qui vont contribuer là-dedans.
Et on dit, c'est un pacte de stabilité, de développement. Est-ce que tout ce qu'on a entendu avec notre envoyé spécial Paul Kaboba, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, professeur?
Non, je dirais d'abord que ce n'est pas nouveau. Quand nous lisons la déclaration de Dar es Salaam du 20 novembre 2004, mais ces principes sont repris là-dedans. Ce sont les mêmes principes qu'on a coulés sous forme de ce pacte qui sera signé demain. Je crois qu'il y a d'autres éléments, il y a d'autres principes que votre rapporteur n'a pas signalé ici, mais ce qu'il a signalé se trouve dans cette déclaration de Dar es Salaam. Il a aussi dit là-bas le problème de la défense commune. Ça doit être une préoccupation des États membres, des États signataires, n'est-ce pas, de cet accord. Et aussi, et il a bien souligné vers la fin là, mais il a mis sous forme de moyens pour l'application de cet acte-là. Mais il y a un problème important qu'on a mis dans la déclaration de Dar es Salaam, c'est le problème des réfugiés. Ça, c'est un problème important.
Oui, dans le cadre, ils sont très nombreux dans tous les pays de la région.
Tout à fait. Il faut une politique d'ensemble pour faire face à ce problème des réfugiés.
Donc ça, vous croyez que c'est très important?
Oui, c'est très important. Il faut que le problème des réfugiés, ce n'est pas pour rien. Par exemple, en 1951, l'ONU a pris un protocole, n'est-ce pas, une convention sur les réfugiés. Et l'OU, en 1969, va emboîter le pas à l'ONU. C'est pour essayer, n'est-ce pas, de gérer l'afflux des réfugiés qui se trouvent dans les pays limitrophes. Si on trouvait la solution commune à ces problèmes de réfugiés, les États de la région pourront démarrer leur développement, pourront coopérer comme il faut.
Nous avons reçu beaucoup de questions de nos auditeurs. Monsieur le ministre, il y a Jenny Nondo de Kinshasa qui dit « Il n'y a pas d'ambassade d'autres pays comme le Rwanda ou le Burundi en RDC. Est-ce que le pacte insistera, pouvait insister aussi sur l'ouverture des ambassades pour affermir les relations ?»
Bien entendu, sans aller jusqu'à trop rêver et penser que c'est le sésame ouvre-toi et que tout va aller comme sur des roulettes. Non, c'est un processus. La diplomatie, c'est le domaine où la patience est le premier talent qu'on a. Il faut donc y aller. Les succès diplomatiques sont souvent des succès après des luttes de longue haleine. Et donc, qu'il n'y ait pas d'ambassade dans différents pays, les unes par rapport aux autres, donc ces ambassades-là, c'est le cas de l'absence d'une ambassade rwandaise ici chez nous, mais l'essentiel c'est que nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques, même au plus fort de la guerre, on n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Moi je crois que ce qui devrait nous chatouiller un petit peu, c'est l'absence du président rwandais.
Voilà, il y a la question de Ngabo, Ngabo Bahati qui dit, il pense que d'abord il fallait signer ça avant, mais il y a un autre auditeur aussi qui nous a dit que est-ce que cette absence n'est pas un signe que le pacte ne sera pas respecté?
On ne peut pas jurer qu'un pacte sera signé ou pas. L'essentiel c'est l'implication de toute la communauté internationale. Nous avions conçu cette conférence internationale, je prends le point de vue de la stratégie congolaise, comme dans le temps en Europe avec la conférence d'Helsinki sur la paix et la coopération internationale. Nous nous sommes dit, si nous créions un cadre plus global, ce pays qui nous colle à la peau, les pays qui nous ont agressés, profite peut-être du fait que le Congo est esselé dans une organisation internationale comme la CPGL, à laquelle d'ailleurs l'Ouganda demandait d'adhérer, il faut élargir le cadre et là nous avons une marge de manœuvre plus large. Surtout que nos conflits tenaient un peu à un repli identitaire, hein. Vous avez vu cette histoire Tutsi, Hutu, Bantu et tout. On s'est dit, en élargissant le cadre, ceux qui souffraient de la petitesse de leur pays ou qui voulaient s'étendre au-delà pourraient trouver à travers la coopération internationale, l'intégration régionale, de moyens de distribuer autrement les richesses dans la région. Oui, et donc de régler les questions essentielles ensemble à travers la démocratie, la quête de la paix et le retour. Parce que l'origine de ces guerres, c'est quoi? C'est que les changements qui interviennent dans le monde voient les pays africains ignorer un principe sacro-saint de la charte de l'organisation des unités africaines à l'époque, c'est la non-subversion. Les Africains s'étaient jurés en 63 de ne jamais offrir leur territoire comme base arrière à des groupes de subversion ou de déstabilisation de voisins. Et malheureusement, on a oublié ça. Vous verrez que par la théorie des dominos, chaque rébellion a eu une base arrière dans le pays voisin, a déstabilisé l'autre et de proche en proche, tous les pays finalement se sont trouvés dans la même mouvance de la déstabilisation aujourd'hui. On refait les choses ensemble.
Nous reviendrons à vous, monsieur le ministre. Professeur Labana, c'est la question de Joseph Agbadolipé qui veut savoir si l'absence du président rwandais à ce sommet ne signifie pas l'échec de ce pacte. Vous avez entendu le ministre. 30 secondes pour une réponse.
Ok, je voulais ajouter quelque chose à ce que monsieur le ministre a dit en ce qui concerne la non-existence d'une mission diplomatique rwandaise dans notre pays. Mais il faut le savoir que dans le cadre des relations politiques ou diplomatiques, la protection des intérêts, nous pouvons avoir les relations dans les autres domaines. Et il y a une autre puissance qui représente les intérêts de ces pays-là qui n'a pas une ambassade sur le territoire de l'autre État. Et je pense qu'à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Alors, en ce qui concerne l'absence du président rwandais, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est son calendrier interne qui l'a empêché de partir? De ces deux hypothèses, nous pouvons prendre la seconde hypothèse. sachant que le président rwandais, actuellement, il a trop de problèmes avec certaines grandes puissances.
Notamment la France.
Notamment la France. Et ça peut être par peur, n'est-ce pas, de ne pas aller se présenter à cela.
Oui,
mais je crois que...
Ce qu'on a entendu ici, c'est que son agenda était...
oui, justement, ça c'est...
Alors, nous avons aussi en ligne de Bukavu, Agnès Kamoignan, qui est vice-présidente de la Société civile du Sud-Kivu. Agnès, vous êtes avec nous. Est-ce que vous trouvez aussi de la satisfaction dans la signature demain de ce pacte?
Merci beaucoup pour cette question. Je crois que la signature de ce pacte, ce serait quelque chose de bienvenu pour la population du Sud-Kivu, qui, vous connaissez, a connu des moments de conflits armés très répétés, et que même actuellement encore, il y a des coins et des coins de notre sous-région qui ne vivent pas dans le calme, qui sont toujours des victimes des bandes armées qui
sont une bonne chose.
Dans nos forêts. Et que donc, si les États de l'Afrique centrale peuvent arriver à signer un pacte qui peut instaurer la paix et la stabilité, nous, de ce côté, je crois qu'on ne peut qu'applaudir.
Alors, nous, restez avec nous, hein, Madame Agnès. Beaucoup de préoccupations de nos auditeurs. Certains veulent connaître tous les contenus de la charte. Il y a Wilson qui nous a appelé. Wilson, nous vous écoutons.
C'est Oura et Bonga Wilson. Je vous appelle à partir de Goma, province du Nord Kivu. Ma question est celle-ci. La charte qui a été signée ou qui sera signée, donnait-elle le pouvoir aux pays signataires d'intervenir d'une façon militaire, et cela conjointement dans un pays où cela est nécessaire, de venir même d'une façon conjointe dans notre pays?
Alors merci Wilson pour votre question. Pour un exemple concret, est-ce que la RDC pourra par exemple solliciter le Rwanda pour déloger les rebelles d'FDLR ou permettre que ces derniers interviennent lui-même sur le sol congolais, monsieur le ministre?
Non, n'allons pas à l'autre extrême. Il y a certes une conception de ce qu'on appelle la sécurité collective, en sachant que la paix, une fois qu'elle est blessée dans un coin de cette région où les pays du champ sont l'objet d'une déstabilisation, les autres doivent se considérer comme concernés. Et là, certainement qu'il y a un mécanisme de rétablissement de la paix qui pourrait voir peut-être des troupes internationales de la région qui pourraient éventuellement intervenir. Mais c'est un domaine tellement délicat qu'il faut encore en négocier les modalités.
Et sur l'essentiel, c'est pas dans le pacte.
C'est d'abord d'État à État d'éviter d'être la source de déstabilisation d'un autre État, de la non-agression, non-subversion et de la stabilité. Et donc, le problème n'est pas qu'international, il faut qu'à l'intérieur, chacun des pays puisse trouver des mécanismes internes de résolution de conflits, notamment à travers la démocratie. C'est pourquoi vous verrez que pratiquement le Congo était le dernier pays à avoir eu des élections, même si celles qui ont eu lieu au Rwanda sont sujettes à caution. Mais sur l'essentiel, tous les pays ont au moins des gouvernements issus des urnes. C'était une des conditions parce que ce pacte, c'est aussi pour la démocratie. Il y a une grande implication des sociétés civiles des différents pays, une grande implication des parlements des différents pays et des différents groupes comme les femmes, les jeunes, les universitaires. Et on voudrait donc considérer que nous devons créer une nouvelle fraternité en étant ensemble et que ça ne soit pas seulement des conciliabules entre des politiques qui, lorsqu'ils ne se mettent pas d'accord, nous avons des répondées guerrières.
Professeur Labana Lassayabar, est-ce que... si on a une armée régionale ou bien on parvient à avoir des unités nationales, disons régionales, du Rwandais dans une armée, de Congolais, des unités comme ça, c'est une solution au problème que pose Wilson?
Non, moi je pense que la solution doit venir dans une politique de défense commune où nous trouvons régulièrement des contacts réguliers entre les responsables d'armée, de la police, de tous ces gens, de tous ces États-là.
Par un partage d'informations?
Bien entendu. Avoir un mécanisme de contrôle, comme nous le trouvons par exemple dans la SADC, comme nous le trouvons par exemple dans la CEDEAO en Afrique occidentale. la défense commune deviendra un instrument important pour éviter, n'est-ce pas, des actes le long des frontières de tous ces États-là. Et la réussite de cette défense commune dépendra aussi de la volonté politique des signataires de ces pactes. Parce que les pactes visent la stabilité, l'espace stable, n'est-ce pas, de la sous-région, des Grands Lacs. Et je pense, avec cette politique-là, on peut arriver à éviter, n'est-ce pas, de permettre, comme disait le ministre tout à l'heure, le non-respect d'un principe qui a été, depuis la création de l'OIA, que les États membres ne peuvent pas favoriser un groupe d'individus d'un État voisin de préparer un coup dans un autre État pour aller déstabiliser un État voisin. Mais avec la présence de cette défense commune, avec les responsables, n'est-ce pas, de sécurité de tous ces États qui vont signer le pacte, je crois qu'on peut arriver à la solution.
Quel est le contenu de ce pacte qui sera signé ce vendredi à Nairobi? Quelles solutions peuvent attendre les populations des pays concernés, en particulier celles de la RDC? Et bien, pour en parler, nous avons le ministre Henri Mova-Sakani, porte-parole du gouvernement, le professeur Labana Lassayabar, professeur des relations internationales à l'université de Kinshasa. Nous avons aussi en ligne de Bukavu Agnès Kamwanya, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu. Alors, Madame Agnès, vous êtes avec nous. Quelles sont vos attentes sur ce pacte? Est-ce que ce pacte va vous apporter des solutions? Vous souhaitez qu'il vous apporte des solutions, lesquelles?
Plusieurs solutions. Figurez-vous que je viens d'évoquer un problème là, un problème d'insécurité, généraliser un peu dans nos forêts. Si ce pacte est signé et que les États acceptent de respecter le pacte, ça veut dire que la paix sera chez nous et je ne crois pas que les pays voisins, eux, sont contre la paix.
Alors, on vous a entendu, donc, problème de sécurité, à part la sécurité?
Eh ben, à part la sécurité, il y a tout un autre problème. Tu vois, nous sommes un pays à démocratie naissante, si je peux me permettre de parler ainsi. Si nous avons la paix, on peut penser à la reconstruction de notre pays. On peut penser à avoir une stabilité politique aussi. On peut penser à avoir, comment dirais-je, un pays, un état de droit. Et tout cela, nous en avons besoin. Et sans paix, nous ne pouvons pas marcher comme il se doit.
Alors, Madame Agnès, vous êtes avec les populations très, très, très proches à chaque instant. Est-ce qu'il y a une question que les populations se posent et que vous pouvez poser à nos invités dans ces studios, Monsieur le ministre Henri Mova ou le professeur Labana?
Écoutez, ici, je peux dire ceci, c'est que depuis longtemps, nous avons vu ce pays signer des pactes. On a parlé de la CPGL tout à l'heure, et souvent, on arrive à voir que finalement, on ne respecte pas les pactes signés. Cette fois-ci, la question que nous pouvons nous poser, c'est que quelle est la garantie que la conférence internationale des Grands Lacs qui se tient actuellement peut nous apporter pour vraiment dire que cette fois-ci, nous pouvons compter sur le pacte qui va être signé à Nairobi.
Merci beaucoup, Madame Agnès. Monsieur le ministre, vous avez entendu Madame Agnès, il y a eu des pactes, il y a eu des résolutions. Est-ce que ce pacte qui sera signé ce vendredi aura des conséquences sur le vécu des populations?
Oui, certainement. Mais je voudrais rappeler que en diplomatie, nous n'avons pas toujours des victoires glorieuses qui font du tape à l'œil. Là, c'est le domaine de la patience. Il faut reconstruire patiemment. Et au moins, avoir atteint ce niveau est un grand succès dans la mesure où, à côté de contacts bilatéraux que l'on pourrait continuer à avoir, ce cadre va nous servir de déversoir de tout ce qu'on a comme plainte les uns par rapport aux autres. Donc ça pourrait, avec la garantie internationale, parce que vous savez, c'est quand même nous l'avions voulu en tant que Congolais. Nous avons aujourd'hui une garantie internationale. Vous savez qu'il y a tout un secrétaire général, le secrétaire général de l'ONU a un représentant en la personne de M. Ibrahim Afal. Il y a un certain nombre de pays, l'Union européenne est impliquée. Et donc, il y a un accompagnement international qui voudrait que nous ayons la paix par le développement.
Mais de façon concrète, ce sera quoi les résultats sur les populations?
Les résultats, c'est que lorsqu'on a la garantie qu'un pays ne va pas profiter de la distraction d'un autre pour pouvoir toucher à sa souveraineté, c'est une garantie, mais aussi l'intégration à travers la mise en commun de nos richesses. Nous pouvons reprendre l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu ou l'énergie ensemble. On peut réactiver l'accord sur l'exploitation commune du port de Mombasa ou de Dar es Salaam. Et donc, à travers les activités économiques, nous avons moins de temps pour pouvoir nous combattre. Et donc, je disais, il y a un accompagnement international, il y a un financement. L'on ne voulait pas une reconstruction pays par pays. On voudrait une reconstruction qui puisse financer, oui, des programmes régionaux. Et les Occidentaux nous ont dit, si vous vous mettez ensemble, comme c'est le cas dans le cadre de la SADC, vous savez, la SADC a été une amplification du renouveau dans l'Afrique australe depuis la fin de l'apartheid. On a donc financé le pays, la région où il y a des projets porteurs, c'est notamment la SADC. Si nous sommes sérieux, ce sera pas toujours le cas, hein. Il y aura quelques ratés. La preuve, c'est que déjà, le président rwandais est absent. Et donc, il est possible que, ensemble, l'on puisse nous financer dans certains projets et les échanges pour la meilleure compréhension, intercompréhension entre les étudiants, les médias et d'autres secteurs pourraient nous amener une plus grande quiétude. Malheureusement, il y a une conception sélective de troubles faits. Prenez par exemple que les Interahamwe, tout le monde veut le combattre les armes à la main, mais lorsque nous avons une affaire de Kundama Touaré, on nous dira négocier. Alors que s'il y a des déstabilisateurs venus du Rwanda, tout de suite on dit la solution militaire, et cette politique de deux poids deux mesures risque de nous jouer de tout.
Est-ce que c'est une politique de deux poids deux mesures ou bien c'est la partie congolaise qui ne sait pas se prendre en charge?
Bien sûr qu'on s'est pris en charge. La paix est difficile à remettre en marche. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on a quelques retombées de la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'a pas résolue. Il y a énormément d'autres situations qu'on n'a pas résolues à travers le monde. Le conflit israélo-arabe dure depuis 48. Donc, la guerre est facile à commencer, mais pour refaire ce qu'on a déjà cassé, c'est dur. Et donc, ce qui s'est fait est un grand pas en avant. Qui pouvait penser qu'on pouvait avoir même des élections dans ce pays? Aujourd'hui, il y a quelques violences, des zones de violence résiduelles qui sont des poches qui vont être vaincues petit à petit avec la montée en puissance.
Nous allons revenir à vous, monsieur le ministre. Professeur Labana, vous évoquiez tout à l'heure le problème des réfugiés qui peut trouver une solution à travers ce pacte, mais on sait qu'aussi à l'Est, il y a des grands mouvements frontaliers. Est-ce que les populations peuvent espérer, avec la signature de ce pacte, vivre en paix?
Ok, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'espoir. Nous pouvons espérer que la situation peut changer. Il y a une volonté, premièrement, du fait que ce pacte est accompagné d'une structure. Nous appelons le secrétariat exécutif. Et ce secrétariat exécutif aura comme mission de veiller à la violation ou à l'application de tous ces principes qui sont adoptés, n'est-ce pas, consensuellement au niveau de la signature de ce pacte. Alors je crois, en ce qui concerne les bandes armées, ici, il faut qu'il y ait aussi une coopération, une politique de coopération entre les États qui sont concernés dans ces problèmes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la politique de la défense commune peut sauver cette situation.
Oui, mais si nous négligeons un peu l'aspect défense, mais les petits commerces frontaliers, de quelle façon ce pacte peut donner une solution?
Mais de toute façon, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure que le contexte qu'on va signer ce pacte, c'est un contexte qui montre que les États de la région sont entrés dans la démocratie. Alors, partant de cela, c'est le respect des principes. Il faut qu'on revienne au commerce structurel, au commerce entre les États, diminuer de moins le commerce informel qui nous amène beaucoup de problèmes, même la circulation des armes légères. C'est cette faiblesse-là au niveau des pouvoirs de l'État. Mais si l'État reprend mais le contrôle, n'est-ce pas, de la gestion et du commerce, etc., nous pouvons arriver. Et ce n'est pas demain que nous aurons les résultats de cela.
On a entendu beaucoup d'avantages de ce pacte de stabilité qui sera signé ce vendredi. C'est ce qui pousse Patrick à poser sa question dans cette émission. On va écouter Patrick.
Oui, moi je m'appelle Patrick Wasson Ningi. Je suis à Bukavu, au sud de Kivu. Alors ma question est de savoir si ce pacte signé par les différents présidents ne peut pas avoir un désavantage, donc quel est l'inconvénient plus tard. Parce que j'ai entendu parler de ces avantages. C'est ma question.
Voilà, Monsieur le ministre Henri Mouvasokani, on a entendu des avantages. Quels sont les inconvénients?
Non, la quête pour la paix ne peut pas être un inconvénient, à moins que l'on soit Don Quichotte à guerroyer contre des moulins à vent. Si on veut le bonheur de ce peuple dont on a démontré le caractère pervers de la guerre sur l'évolution de nos populations, les commerces a baissé, les affaires ne tournent pas. Même le pays qu'on croyait être bien géré, qui avait une grande croissance comme l'Ouganda et le Rwanda, avec du fait de la guerre, aujourd'hui, ce n'est plus le grand succès. Ils avaient d'ailleurs le vent en poupe parce que ils disaient, bon, c'était des guerrieros hier, mais qu'ils ont troqué leur treillis militaire par un costume cravate et que c'était des new leaders qui allaient refaire la renaissance du continent. Ça a été un gros échec en partant de l'Érythrée, en passant par la Somalie, l'Éthiopie, jusque chez nous. Et donc, un tel pas, lorsque les gens dévisent pour se mettre d'accord sur la paix, on ne peut pas avoir d'inconvénient. Le seul regret, c'est que ça pourrait être lent et les attentes populaires sont trop grandes peut-être. Mais dire que l'on se retrouve là pour se mettre d'accord, de créer un cadre global de paix et de résolution de conflits. Lorsqu'on a des problèmes, voilà un arbre à palabres qu'on vient de trouver où toutes ces choses pourraient se discuter, comme l'a dit le professeur, avec une structure qui garantisse la permanence de l'activité. Ce ne sera pas que de sommets, mais ça sera aussi une activité au quotidien avec des fonctionnaires internationaux qui veillent à ce que ce principe soit appliqué.
On a écouté les réponses de M. le ministre, on a écouté aussi les réponses du professeur. On va voir les auditeurs, ils sont très nombreux à nous envoyer leurs questions et opinions. Bonsoir MCA.
Bonsoir Georges Kamujova.
Alors, quelles sont les opinions que vous avez?
Oui, la première opinion. L'opinion provient de Bajos à Kabaré, au sud Kivu, qui pose la question de savoir quel est le but de cette conférence quand on sait que la RDC est toujours attaquée par ses voisins. Henri Bakoumanya Mbandaka, dans la province de l'Équateur, voudrait savoir si le pacte pourrait résoudre l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, surtout avec la présence des FDLR. Innocent à Ouvira, au sud Kivu, demande à ce qu'il y ait cette fois-ci la sincérité, le patriotisme et le changement des mentalités de la part des chefs d'État, car cet acte n'est pas le premier qu'il signe. Patrick Kayembe Akananga, c'est dans le Kasaï occidental, pense que le sommet ne peut rien apporter pour la RDC sans la volonté des Congolais eux-mêmes. Un auditeur anonyme dit ceci, aussi longtemps que le régime au Rwanda ne change pas, il n'y aura pas de paix dans la région des Grands Lacs. Que le président de la RDC s'occupe de la paix dans son pays. Ce pacte n'a pas de sens pour l'instant. Babi Mesa, Kinshasa, pense qu'organiser une cérémonie pour la signature de ce pacte, c'est bien beau. Mais respecter les termes, c'est tout un autre problème. Mayombo Chibui à Kananga, c'est dans la province du Kasaï occidental, pense que signer ce pacte ne suffit pas pour la stabilité de nos États. Il estime que le plus important pour l'Afrique, c'est que les Africains acquièrent d'abord la culture du respect de leurs engagements. Triomphe Kalonda pense qu'il n'y aura pas de stabilité dans la région des Grands Lacs tant que le gouvernement congolais ne cherche pas de solutions militaires pour sécuriser les frontières de la RDC. David Mbwanga à Manono dans la province du Katanga espère que cette signature va renforcer la politique de bon voisinage ainsi que la paix durable en RDC. Enfin, Pierre Chindano à Bukavu dans la province du Sud Kivu demande à ce que les chefs d'État des pays des Grands Lacs fassent un effort afin de résoudre le problème des FDLR à l'est de la RDC et si possible envisager un dialogue inter-rwandais.
Voilà, on vient d'écouter les auditeurs, professeur Labana Lassayaba. Il y a d'abord un doute sur les effets que peut apporter ce pacte. On doute aussi de la sincérité de ceux qui vont le signer, les chefs d'État. Qu'est-ce que vous dites?
Ok. Vous savez, lorsque les États se retrouvent autour d'une table, Autrement dit, autour d'une négociation, chaque État cherche à préserver ses intérêts. Et les résultats de ces négociations, c'est les compromis qu'ils ont trouvés. Ça signifie que chaque État a trouvé son intérêt dans ce pacte, a trouvé la préservation de ses intérêts, n'est-ce pas, dans l'articulation, dans l'application de ces pactes. Moi, je crois que nous, les Congolais, nous avons toujours une vision négative de ce qu'on fait. On veut avoir les résultats immédiatement ou deux jours après la signature. Non. Vous savez, en matière de la diplomatie ou des relations internationales, si nous prenons le cas de notre pays, quel est l'intérêt la République démocratique a à signer un pacte avec les 9 pays voisins? Vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, quand vous regardez avec ses 9 voisins, nous sommes dans une zone de haute sensibilité qui dépend de notre avenir,
mais le problème
notre
survie. Le problème de nos auditeurs ici, c'est la sincérité de ceux qui vont signer.
Mais bien sûr, la sincérité, là, du fait qu'ils vont mettre leur signature, ça fait qu'ils se sont mis d'accord. Mais la sincérité, ils veulent que demain, qu'on voit que le sud ou le nord qui vous bouge, sur base de ces pactes qu'on a signés. Mais c'est un mécanisme, ça va venir. Ce n'est pas dans des jours qu'on peut trouver les résultats. Moi, je crois que même si vous prenez l'exemple, par exemple, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, mais les résultats, nous les récoltons maintenant. Ce n'est pas un mois après, deux mois après. Moi, je pense que tout dépend de la volonté politique de tous ceux qui vont signer ces pactes-là. Et si la vision, le but, c'est la paix, la stabilité, créer la sous-région qui devient l'espace de paix et de sécurité.
Merci beaucoup, professeur. Nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur le ministre, on a aussi entendu que le pacte ne sert à rien si les rebelles rwandais d'FDLR sont encore sur le sol congolais. Qu'est-ce que vous répondez?
Il faut se mettre d'accord. Nous avons quitté un champ, le champ militaire, où on n'a pas trouvé toutes les solutions globales. On a laissé un champ aux diplomates. Nous sommes dans un domaine des diplomates. Donc nous répondons d'ailleurs, comme analystes, en diplomate.
Okay? Donc, membre du gouvernement. Porte
bien sûr, c'est la dimension diplomatique. Si c'était la guerre, on pourrait appeler des militaristes pour qu'ils expliquent les stratégies militaires à mettre en place. Ici, c'est la diplomatie qui a ses règles. Comme l'expliquait le professeur, lorsqu'il y a divergence de vue, vous vous retrouvez, vous négociez, ça a duré longtemps. On a même impliqué les populations concernées pour arriver à ce pacte. C'est pourquoi il n'est pas que pacte de paix, il est aussi pacte de stabilité, il est pacte de développement, il y a la démocratie là-dedans. Il y a un certain nombre de changements de comportement des États, mais aussi de leur société civile. Ça, c'est très important.
Est-ce que la diplomatie congolaise peut arriver à résoudre, par exemple, ce problème FDLR sur base de ces pactes?
Oui, c'est déjà un grand pas en avant. Si le Rwanda peut avoir la garantie, parce que c'était ça son fonds de commerce, chaque fois il répétait qu'il avait des éléments d'instabilité localisés au Congo, ce qui justifiait ses allers-retours à travers nos frontières. Donc, si de part et d'autre, l'on peut se sécuriser, parce qu'on a eu la preuve que lorsqu'un pays est déstabilisé, tous les autres le sont du fait déjà des réfugiés. Et vous savez, la Première, la Deuxième Guerre mondiale sont aussi, ont trouvé un foyer d'explosion à travers la mauvaise gestion des réfugiés. La réinsertion de ceux qui ont quitté le territoire ou des forces militaro-politiques qui ne se retrouvaient pas dans le moule national, comme aujourd'hui les différentes rébellions qui ont concouru aux élections au Congo, ont trouvé peut-être un espace d'expression. Donc, que les Congolais qui s'attendent à beaucoup, et un petit peu confiance, on pourra juger de l'efficacité de ce pacte, peut-être dans une année, deux ans, on verra bien.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à M. le ministre Henri Movasakani, au professeur Labana et à Mme Agnès Kamwanya. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission et ceux qui l'ont élaborée. Pour ceux qui nous ont ratés ce soir, la rediffusion en FM, c'est demain à 4h45, heure de Kinshasa, donc une heure de plus à l'est du pays. Vous pouvez nous réécouter aussi sur 11 690 kHz, donc en onde courte de 5h à 7h, heure de la capitale congolaise. Retrouvez également cette émission sur votre site internet www.radiookapi.net. Vous pouvez y joindre aussi vos réactions. Restez en compagnie des programmes de Radio Okapi et bonne soirée.